Donc nous serons dans aux Hébreux chapitre 10, aux Hébreux chapitre 10, et vous avez fait ces dernières 3 semaines les passages qui parlaient du temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, et puis de Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Et maintenant nous allons passer de la théorie à la pratique parce que l'écrivain a posé de bons fondements. Ces fondements qui sont tout ce que nous avons reçu en Christ, le Christ qui est, il est au-dessus des anges, il est au-dessus de Moïse, il est au-dessus de la loi, il y a Jésus qui est au-dessus des prêtres, il est au-dessus de tout sacrifice, au-dessus de Josué. On peut faire toute la liste de ces différentes choses. Mais nous arrivons juste à 6 petits versets que j'aimerais passer 30 minutes, même pas, avec vous en parlant de cela. Et c'est dommage que nous ne soyons pas un peu plus. Je crois que j'attendais quand même une dizaine d'autres personnes, mais peut-être qu'ils peuvent aller sur le site ou je prêche une deuxième fois la semaine prochaine la même chose. Comme ça rentre dans l'esprit de tous. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Ici, nous avons un texte qui, de nouveau, nous parle de tout ce que Jésus fait pour nous, qui nous donne accès à Dieu par son sang et par sa chair. Et nous nous souvenons de ce que Jésus a fait. Lui-même a annoncé, Marc chapitre 10, le verset 45, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme un rançon pour plusieurs. Pour donner un rançon pour plusieurs. Et l'écrivain des Hébreux a pris cette vérité évangélique et il a montré à travers les différents chapitres que Jésus est un meilleur sacrifice et il est un meilleur sacrificateur. Il montre dans les textes précédents que Jésus est le sacrifice pour les péchés du monde et qu'il est un sacrificateur parfait qui nous mène dans la présence directe de Dieu. Il nous donne accès à Dieu. Et donc, nous voyons que Jésus, comme prêtre, il est celui qui est saint, il est celui qui est innocent et sans défaut, il est immaculé, c'est-à-dire sans péché, il est séparé des pécheurs, même s'il a tout ce qui est humain en lui, et il est plus élevé que les cieux. Et grâce à l'œuvre de Jésus, nous avons le pardon et l'intercession avec Dieu. Nous avons un libre accès, et c'est important de voir cela, libre accès, parce qu'avant Jésus-Christ, il n'y avait jamais un libre accès à Dieu, un libre accès dans son sanctuaire céleste. Le prêtre sous la loi avait un accès limité à Dieu, jamais comme l'accès que nous avons en Christ. Nous avons un accès qui est libre, mais toujours avec respect, toujours dans l'honneur de Dieu, toujours dans une sainte crainte de Dieu, mais un accès constant quand même. Nous pouvons continuellement être dans la présence de notre Dieu. Et comment est-ce que cela se passe? Bon, nous voyons dans notre texte qu'il parle de deux choses. Il parle du sang et il parle de la chair de Jésus. Nous nous souvenons qu'un prêtre pouvait entrer seulement dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu saint des saints, avec du sang pour mettre sur l'autel. Une fois par année, avec le sang d'un animal pur, il pouvait entrer là-dedans. Un sacrifice pour lui-même, mais un sacrifice qu'il a dû répandre à l'intérieur. Mais nous avons le sang du Christ qui nous donne un accès libre et continu à Dieu. Deuxième chose, c'est par la chair de Jésus que nous voyons. Et nous nous souvenons que le tabernacle et le temple étaient divisés en deux parties. Vous vous souvenez, le lieu saint et le lieu saint des saints. Et les prêtres pouvaient entrer dans l'endroit saint chaque jour pour mettre les pains de la présence, pour mettre aussi l'huile pour les chandeliers, pour remettre de l'encens. Il y avait un accès continuel, toujours bien sûr après s'être purifié, et puis il y avait un accès une fois par année dans l'endroit saint des saints. Et il y avait une séparation, il y avait un rideau, il y avait un voile qui séparait les deux endroits. Et c'est le même, vous vous souvenez, rideau qui a été déchiré dans de haut en bas quand Jésus a crié, donc tout est fini, quand il a rendu son esprit à Dieu. Et comme le rideau a empêché les gens d'entrer dans le lieu saint des saints, tout en protégeant les gens qui étaient dans l'endroit saint, la chair de Jésus agit de rideau pour nous donner accès à Dieu. Sa chair est déchirée, son corps est déchiré sur la croix pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Mais de la même façon que le rideau protégeait les prêtres du lieu saint des saints, Jésus nous protège. Et donc, dans notre texte, je ne sais pas si vous avez vu, il dit très clairement que le rideau maintenant est la chair de Jésus-Christ. Et nous passons à travers sa chair pour être dans la présence de Dieu. La chair et le sang, quand même très important dans cet épître aux Hébreux. Chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ici, sang et chair veut dire que Jésus est venu, comme nous, être humain, pour donner sa vie. Il était comme nous, de toutes les manières, sauf qu'il n'a jamais péché. Deuxième chose, chapitre 7, le verset 5. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Bon, ce passage nous dit que quand Jésus était dans la chair, il a souffert dans la chair, comme ces chrétiens-ci souffraient dans la chair à cause de la persécution. Et donc, il partage les souffrances de son peuple. Dans chapitre 9, le verset 12, nous lisons « Et Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Et ce passage nous dit que non seulement Jésus est être humain comme nous, mais il entre dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Il verse son propre sang dans cet endroit pour que nous puissions entrer dans la présence du Père. Et puis finalement, le verset 10, chapitre 10, le verset 10, il dit « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Il offre son corps. Et cela nous fait penser, n'est-ce pas, à Jésus juste avant sa mort. Que Jésus, le soir où il prend du pain et il prend du vin, et il dit « Ceci est mon corps qui est offert pour vous. » Il parle de la croix. Il parle effectivement qu'il va servir de sacrifice. Et il prend la coupe et il dit « Ceci est mon sang, le sang d'une nouvelle alliance. » C'est le sang qui est versé pour le pardon des péchés. Dans notre texte, nous voyons aussi au verset 20, donc toujours au chapitre 10, le verset 20, il dit qu'il est un chemin nouveau et vivant. Il est un chemin nouveau et vivant. C'est ça qui dit notre texte. Et cela nous fait penser à Jésus devant la foule qui dit quoi? « Moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Okay? Je suis la vie. » Jean chapitre 14, le verset 6, devant ses disciples. « Il est le chemin vers le Père, mais il est un nouveau chemin. » Il est celui qui est la vie, mais il offre une nouvelle vie. Et c'est Jésus qui a ouvert ce nouveau chemin vers Dieu, à travers un sanctuaire céleste dans la présence de Dieu. Il a tout inauguré. Il a dédié cela. Il a accompli cela. Il est notre pionnier qui a trouvé le chemin, qui a créé le chemin pour que nous arrivions dans la place de Dieu. Il a accompli ce que les autres prêtres n'auraient jamais songé faire, c'est-à-dire ouvrir un autre chemin à Dieu qui donne un libre accès continuel à Dieu. Et donc Jésus, quand nous disons ceci est sa chair, quand nous disons que ceci est son sang, nous nous souvenons que cela nous donne un libre accès de Dieu. Vous voyez dans la culture d'aujourd'hui, en sachant que cela est vrai, qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre culture d'aujourd'hui? Vous savez qu'on n'a jamais parlé dans le monde avec des gens qui ont un niveau de formation plus élevé qu'aujourd'hui. Les gens dans nos pays, à l'Ouest, ils savent plus que n'importe quelle autre génération au niveau d'information, au niveau de formation. Les gens entre les âges de 6 ans et 50 ans, ils sont continuellement connectés. Connectés à des réseaux, connectés à d'autres, connectés à des informations. Et aujourd'hui, on vit avec des gens entre l'âge de 20 et 40 ans qui ont de très grandes valeurs. Ils ont ces idées politiques, ces idées de vie, de ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais qui sont énormes. Mais parfois, dans la pratique de tous les jours, c'est-à-dire avec l'individu, ils ont de la peine de concrétiser ces grandes valeurs. Ils ont une vision plus grande que les frontières. Ils ont une vision qui est plus grande que les races. Ils ont une vision qui est plus grande que mon pays et les pays des autres. Et on vit avec des générations vraiment nomades, des générations qui ne vont pas rester dans un même pays ou dans une même région et beaucoup moins dans une même ville pendant toute leur vie. On vit avec des gens qui cherchent une stimulation, ils cherchent des expériences. Comme nous avons parlé avec des étudiants qui terminaient l'université, on a fait un sondage, 250 jeunes, en leur demandant quel est le premier critère que vous avez pour choisir pour quelle entreprise vous voulez travailler. Vous savez quelle était la première chose? C'était le lieu où on allait le faire. Et le deuxième, c'est les expériences que nous allons avoir. Ce n'était pas le salaire, c'était les lieux et les expériences. Et aujourd'hui, les gens cherchent cette capacité d'être stimulés, d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Les gens veulent se décider eux-mêmes. Ils veulent être flexibles. Ils veulent avoir la liberté de faire comme ils veulent. Ils veulent être informés et participer aux décisions. Dans l'entreprise, ils acceptent pas qu'un chef dise « c'est comme cela ». Plutôt, il faut discuter, il faut trouver une solution. Il faut une collaboration qui est importante. Et puis, les gens, ils s'éloignent de la religion. Ils s'éloignent de tout ce qui est foi en un seul Dieu. Et il y a un vouloir d'avoir les choses maintenant. Parfois, on appelle les gens entre l'âge de 17 et 40 ans la génération moi. La génération moi. Je pense à moi. Je veux être libre à faire comme je veux. Bon, qu'est-ce que cette lettre peut dire à des gens qui vivent dans une situation comme la nôtre aujourd'hui? Et nous voyons qu'il y a 5 exhortations dans notre texte, 5 choses qui appellent les gens à vivre dans l'engagement d'une communauté. De non seulement avoir des valeurs qui sont grandes, et non seulement avoir une vision politique qui est grande, mais de vivre cela dans le quotidien avec les autres. Et on appelle cela la communauté. La première chose, il dit au verset 22 de notre texte, il dit « approchons-nous, approchons-nous de Dieu ». Nous avons la responsabilité personnelle de nous préparer le cœur et le corps pour Dieu. Et notons bien ce qu'il dit dans notre texte. Il dit « approchons-nous d'un cœur sincère, d'une foi pleine et entière, cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » S'il y a une chose que la génération des gens entre l'âge de 17 et 40 ans, c'est l'hypocrisie. Il cherche la sincérité, il cherche l'honnêteté chez les autres. Okay? Je sais pas vraiment si eux-mêmes ils veulent, mais ils cherchent ça. Ils veulent que les gens admettent leurs erreurs. Et notre texte dit ici que nous pouvons nous approcher de Dieu avec ces quatre choses: cœur sincère, une foi pleine et entière, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous voyons, il parle de l'intérieur et puis de l'extérieur. Et c'est assez intéressant que quand il termine, il parle aussi de ce cœur purifié d'une mauvaise conscience à travers le sacrifice de Jésus. Quelque chose que les péchés que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient jamais faire. Une des choses qu'il faut savoir, et puis juste on vous a parlé de cela il y a quelques semaines, il a dit que le juif, comme l'hébreu, venait au temple pour offrir le sacrifice. C'était un rappel constant de son péché. C'était un rappel constant de cela. Et au lieu d'enlever la culpabilité interne, c'était un rappel de tout le mal qu'on avait fait. Et c'est quelque chose qui se passait d'année, d'année en année. Et nous avons vu dans cette épître qui dit, et donc ces sacrifices ne pouvaient pas nettoyer, purifier la conscience des gens. Par contre, quand nous venons à Christ, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes lavés de notre cœur. Il nous donne un autre cœur, dit Jérémie 31, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit dans notre texte. Nous recevons un autre cœur. Et après, il dit aussi le corps lavé d'une eau pure. Alors, moi, je pense qu'il est en train ici d'utiliser des images de l'Ancien Testament, mais aussi de l'expérience de chaque chrétien. C'est-à-dire, par la foi, nous venons à Jésus et nous croyons en lui et nous acceptons ce sacrifice, mais par la soumission à Christ dans le baptême, nous avons aussi notre vie qui est lavée. Ici, il dit, vous êtes purifiés. Et vous êtes tous au courant que à l'époque de cette lettre, les Juifs se purifiaient continuellement à travers des bains rituels, à travers les différentes purifications des mains, etc., de nourriture. Mais nous avons une expérience commune qui est l'expérience de foi et de baptême pour mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. J'ai cherché cet autre texte et cela me parle, c'est dans chapitre 6, les versets 4 à 5. C'est un autre contexte totalement, mais je crois qu'il explique d'une manière très claire ce que c'est que la conversion. Il dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. N'avez-vous pas ces phrases? Cinq choses qui sont là. Qu'est-ce qui s'est passé à notre conversion? Okay? Bon, nous étions éclairés. Nous avons compris pourquoi nous sommes là et ce que Dieu est en train de faire. Nous avons goûté le don céleste, c'est-à-dire nous avons dégusté le Christ. C'est ça que nous avons eu. Et nous sommes devenus participants au Saint-Esprit. Comme nous savons à travers la foi, le baptême, nous recevons cet esprit. Nous avons goûté la bonne parole de Dieu, une nourriture qui fait vivre et les puissances du siècle à venir, notre espérance de cette vie éternelle qui est là. Et donc, de la même façon, c'est exactement ce qui se passe ici. Première chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous approcher de Dieu. Et cela, notons bien, c'est pas si vous avez remarqué, mais tout est en nous dans ce passage. Nous. Vous avez remarqué? Mais bien sûr, moi je ne peux pas me rapprocher de Dieu pour Larry. Okay? Il doit faire cela lui-même, mais nous le faisons ensemble. Deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'il dit que au verset 23 de chapitre 10, il dit confessons notre espérance sans fléchir. Et ça, ce n'est pas vraiment une très bonne traduction. Une bonne traduction, c'est tenons ou gardons ou retenons la confession que nous avons. Okay? Et c'est vraiment cette idée de retenir. Et quand je regarde un peu dans cette épître, les fois qu'on utilise la phrase « retenons ferme certaines choses », regarde ce que nous voyons. En chapitre 3, le verset 6, il dit « Christ est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance que nous nous glorifions. » Donc, ce qu'il dit ici, c'est que nous tenons fermement l'assurance et l'espérance que nous avons reçue. Chapitre 4, le verset 14. Il dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession. Quelle confession? Je crois que c'est la confession d'effectivement que Jésus est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, ce que nous avons tous prononcé quand nous sommes devenus des enfants de Dieu. Regardez les autres fois qu'on parle de cette idée de retenir les choses. C'est dans chapitre 6, le verset 17 et 18. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que, par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alors, ici, ils ont traduit différemment, mais cette idée de saisir l'espérance, c'est de retenir fermement l'espérance qui a été proposée. Bon, notre espérance, quand on regarde ces textes, c'est quoi? Bon, c'est la vie éternelle, c'est la résurrection, c'est la vie dans la présence de Dieu, c'est de partager la gloire du Christ, c'est le renouvellement de toutes choses, la fin des injustices. C'est la destruction du mal. C'est de vivre dans la présence de Dieu. Telle est notre espérance. C'est l'ancre solide qui nous aide dans la tempête. Et le mot confesser est particulièrement communautaire. Nous confessons ensemble, par la prière, par le chant, par la Sainte Cène, que notre espérance est solide. Vous savez quoi? Vous pouvez aller dans votre salle, votre chambre, excusez-moi, dans votre salle de bain, et vous pouvez confesser Jésus-Christ comme le Seigneur. Et sans doute, ça fait du bien. Je crois que ça fait... Mais ce n'est pas cela qu'il dit ici. Il dit confessons cela ensemble. Et c'est cela que l'Église fait pour encourager les uns les autres. Nous confessons ensemble ces différentes choses. Et c'est fait par celui... Pourquoi on confesse ces choses? Parce que celui qui donne notre espérance, c'est celui qui ne ment pas. C'est une référence du Dieu de l'Ancien Testament qui a donné des promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui a donné ses promesses et qui les a gardées. Il ne ment pas. Et c'est pour cela que nous avons cette confession. Une confession faite quand on est tout seul ne sert à rien. Mais parlez-moi. Parlez-moi de votre avenir en Christ. Parlez-moi de votre vie avec lui et des promesses de Dieu. Parlez-moi de ces choses et je serai encouragé et raffermi dans ma foi. Puis après, il dit, dans chapitre 10, veillons les uns sur les autres. Bon, il dit, veillons les uns pour les autres pour être la police. Il dit, veillons les uns sur les autres pour trouver le mal que l'autre a fait. Il dit, veillons les uns les sur les autres pour les contrôler et pour les dominer. C'est ça qu'il dit dans notre texte, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il dit, non, il dit, pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Bon, nous ne devons pas être une usine à gaz, il dit. Plutôt, nous devons être présents les uns pour les autres, pour stimuler les uns les autres, pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Vous savez que Jésus a envoyé ses disciples deux par deux dans les missions qu'il leur a préparées pour eux. Et sans doute, une bonne explication est de pouvoir accomplir le travail préparé pour eux. Il fallait deux. Il fallait qu'ils s'encouragent mutuellement. Jésus a choisi 12 apôtres et le texte dit pour être avec lui. Pour être avec lui. Est-ce que vous croyez que Jésus avait besoin de 12 apôtres être avec lui pour accomplir la mission que Dieu a préparée pour lui? Moi, je crois que oui. Et de la même façon, nous avons besoin les uns des autres pour nous inciter les uns les autres à l'amour et aux œuvres bonnes. Et puis le verset 25, il dit, donc n'abandonnons pas notre assemblée. C'est le seul négatif que nous avons dans notre 5 exhortations. C'est le seul. N'abandonnons pas notre assemblée. Le mot pour abandonner, c'est le mot pour déserter. Okay? Donc, vous pouvez imaginer, vous êtes à la bataille, vous avez votre groupe de soldats, tout le monde tire dessus, vous devez compter les uns sur les autres, et qu'est-ce qui se passe? Vous regardez, et ils sont 3 sur 5 qui sont partis. Okay? Bon, vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous allez mourir. Sans les autres, vous n'allez pas tenir jusqu'au bout. N'abandonnez pas notre assemblée, il dit. Bon, pourquoi abandonner? Quelles étaient les choses ici? Est-ce la persécution? Peut-être les doutes? Peut-être les problèmes internes de l'Église? Peut-être fatigue, surcharge, manque de progrès dans la foi, découragement, tentation? Pourquoi? Quelles sont les raisons justifiées pour abandonner l'assemblée? Bon, il n'en donne pas. Il dit simplement, n'abandonnons pas l'assemblée. Nous ne savons pas exactement pourquoi les gens ont commencé à quitter les assemblées. Mais nous voyons que l'exhortation est claire. N'abandonnons pas. Pourquoi? Pour pouvoir confesser notre espérance ensemble. Et pour se fortifier. Pour être une famille. Pour veiller. Pour inciter à l'amour. Pour inciter aux œuvres bonnes. Pour pouvoir s'exhorter mutuellement. Il dit, car il y a un jour qui arrive. Vous avez vu? Est-ce que vous avez majuscule dans votre texte? Ma Bible dit majuscule. Bon, en grec, vous savez que tout est majuscule. Donc, mais ils ont décidé un majuscule parce que sans doute il est en train de parler d'un jour de jugement. Okay? Et donc il dit, soyons ensemble, abandonnons pas pour rester fidèles parce qu'il y a un jugement qui vient. C'est pas la première fois qu'il parle de cela. Chapitre 2, le verset 3 dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est-à-dire qu'il y a un jugement, comme il y avait un jugement pour les infidèles d'Israël dans le désert. Au chapitre 3, le verset 13, il dit, exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est-à-dire, on va s'exhorter aujourd'hui parce qu'il y a un jour qui arrive. Et ce jour, c'est le jour de jugement. Et puis 4.1, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. C'est-à-dire, soyons prêts, parce qu'il y aura un jour de jugement. Et donc, nous nous préparons pour ce jour, d'une manière, en nous réunissant. Puis finalement, la dernière chose qu'il dit, c'est exhortons-nous mutuellement. Exhortons-nous mutuellement. Voici une phrase que nous pouvons entendre ou même dire après le culte. Ah, ce n'était pas très encourageant aujourd'hui. Ce n'était pas très encourageant aujourd'hui. Ah. Bon, vous savez quoi? C'est le travail de chacun d'exhorter. Il dit, exhortons-nous, quoi? Mutuellement. Ce n'est pas seulement au prédicateur ou à celui qui fait les chants ou celui qui fait la classe, etc., d'encourager les autres. Il dit, encouragez-vous mutuellement. Okay? En encourageant-nous mutuellement. C'est le travail de chacun. Et le mot qui est utilisé, vous le connaissez, c'est le mot parakaleo. Hein? C'est un gérant, en train de faire. Hein? Gentil, hein, ouais, on dit. Et il dit en nous exhortant mutuellement. En faisant ainsi, nous accomplissons, nous, le travail du Saint-Esprit au sein de l'Église. Nous nous encourageons, nous sommes des paraclétos, nous sommes des paraclètes, les uns pour les autres, hein, au sein de l'Église. Le paraclète que Jésus a promis lui-même aux fidèles. Nous prenons son travail sur nous. Bon. J'ai assez parlé, merci d'avoir écouté. Mais ces six versets, je veux apprendre à mieux les vivre. Je veux pouvoir vivre ces cinq exhortations d'une manière claire et concrète chaque jour. Et Dieu est pour nous et nous sommes pour lui. Dans notre texte, notons bien, il dit ce que Dieu a fait pour nous en Christ, c'est-à-dire sans est cher. Et ce qu'il demande de nous, un cœur sincère, une foi pleine, un cœur purifié, le corps lavé d'une eau pure. C'est ça qu'il demande. Mais après, il y a cette idée aussi de tripartie. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une relation avec Dieu. Il dit, approchons-nous de lui. Il dit que nous vivons dans une relation de communauté. Et cette relation n'est pas une option, mais osons-nous le dire, cette relation les uns avec les autres est une obligation. C'est une obligation. Ben, j'espère que c'est une obligation heureuse. Mais c'est une obligation. Donc, il y a une relation avec Dieu. il y a une relation dans la famille et puis il y a une relation avec les autres, ceux du dehors, en faisant d'œuvres bonnes. Les uns pour les autres, mais dans un monde où les gens ne connaissent pas le Christ. Et pour dire clairement, tout cela doit nous préparer pour le jour du Seigneur. Je termine avec cet encouragement. Je ne sais pas si vous avez vu dans ce texte, mais dans ces 6 versets, on a ces mots qui apparaissent. La foi, pour garder une foi pleine et entière. L'espérance, ce que nous confessons les uns aux autres. Et puis l'amour, ce que nous retrouvons à travers les exhortations pour inciter les uns les autres à mieux aimer. Dans la vie ensemble, dans ces exhortations, nous trouvons ces 3 vérités, la foi, l'espérance et l'amour. Tout cela, Jésus a donné à nous à travers le don et le sacrifice qu'il a donné. Mais il attend de nous de vivre ces choses chaque jour.